Radio Tintouin.
La radio qui fait le lien, qui fait du bien.
Et parfois qui fait
Tintouin.
Et aujourd'hui, avec nous, nous avons Paola, une réalisatrice vierzonaise, parce qu'à Vierzon, il se passe beaucoup de choses. Et il y a des gens qui font des choses, et en particulier dans le cinéma. Donc Paola, que Joël va nous présenter, où elle va nous parler un petit peu de son métier, et surtout d'une chose, d'une projection qui va avoir lieu donc le 30 juin, le mercredi 30 juin, une projection privée, mais il y aura pas mal de monde, d'après ce que j'ai entendu dire, qui aura lieu au Ciné Lumière à Vierzon. Paola, bonjour déjà.
Bonjour
Joël, qui est avec
bonjour,
nous aussi
bonjour,
sur
Paola,
Radio Tintouin. Elle est souvent là pour animer nos émissions d'interview. Est-ce que, Paola, tu peux nous expliquer qu'est-ce qui t'a amené à faire du cinéma?
Alors, c'est un vieux rêve. C'est un vieux rêve. Et donc, moi, j'ai un parcours atypique. Hein. J'étais infirmière avant de faire du cinéma, pendant très longtemps. Et j'avais ce rêve. Le cinéma m'attirait beaucoup. Et puis, un jour, on se dit, pourquoi pas? Qu'est-ce qui, finalement, m'empêche de le faire? Donc, j'ai fait une formation de reconversion dans une école de cinéma à Paris. Et j'ai décidé de me lancer...
Vous avez franchi le pas.
J'ai franchi le pas.
Vous avez commencé par un court-métrage sur Paris ou sur Vierzon?
J'ai commencé par un court-métrage sur Paris, documentaire, et, qui a été diffusé il y a 5 ans à la Péniche Cinéma, à la Villette. Et puis là, voilà, des films de fiction, des courts-métrages, avec des élèves, beaucoup d'ateliers. Et là, je prépare actuellement. Je
sais pas si donc je là, peux... vous avez travaillé avec les lycées et les collèges de Vierzon? Tous
oui.
Les lycées?
Non, j'ai travaillé avec le collège Albert Camus.
Oui.
Et nous avons fait 4 courts-métrages fantastiques.
Avec les élèves, avec combien d'élèves à chaque fois?
C'était des classes... Il y avait à peu près une vingtaine d'élèves par classe.
Oui, oui. Avec 20, les 20 élèves oui. Sont acteurs dans le court-métrage.
Pas les 20, parce qu'il y a toujours des personnages principaux et des secondaires, des figurants. Mais on a essayé de faire participer le maximum d'élèves.
Et ils ont aimé,
Je pense qu'ils ont adoré. Ils n'ont aucune idée du résultat. Donc le 30, ça sera la première projection. C'est la première fois qu'ils le verront, parce qu'avec la crise sanitaire... Ça a retardé la diffusion de ces courts-métrages, donc ils ont vraiment hâte de les découvrir, et puis moi aussi. Parce
alors,
que
donc uniquement 20 élèves du collège Albert Camus, ou il y a eu d'autres lycées qui ont participé?
Non, c'est uniquement le collège Albert Camus, mais c'était 20 élèves par épisode, donc il y a eu 4 épisodes. Donc il y a à peu près une centaine d'élèves, entre 20 et 25
d'accord.
élèves. Alors. Une centaine
mais
d'élèves qui ont
participé. Pour y avoir participé, il n'y a pas que des acteurs. Hein. Les jeunes apprenaient un petit peu tout ce qui tourne autour de l'enregistrement d'un film. C'est-à-dire, il y en avait qui s'occupaient du script, d'autres des éclairages. Il y avait plein de choses là, qui tournaient autour.
Oui, bien sûr. C'était un projet pédagogique. Le but, c'était vraiment de leur apprendre le métier du cinéma. Comment se passe un tournage. Donc on a effectivement constitué une équipe de tournage avec les élèves. Il y a eu l'équipe son, l'équipe image, l'équipe script. On a vraiment essayé de reproduire à peu près à l'identique un
comme
plateau de cinéma. Voilà.
Oui. Et donc c'est du fantastique science-fiction ou
c'est
fantastique
ça.
Fantasmagorique. Il y a du... C'est effrayant, c'est...
moi, j'en ai fait un effrayant sur les 4. Les autres, non, ils ne sont pas très effrayants. C'est du fantastique, fantasmagorique, oui, oui. C'est pas de l'horreur, hein, non plus.
Donc, les élèves, ils ont appris un petit peu tout ce qui se cachait derrière une projection de film. Parce que là, c'est des très courts-métrages. Ils font combien de temps, chaque court-métrage?
Alors, il y en a 8 au total. Donc, moi, je vais parler que des miens.
Oui.
Parce que les autres, ils font, je crois, entre 4 et 5 minutes, ceux de l'autre réalisatrice. Les miens font entre 7 et 8 minutes, à peu près. La question c'était.
Question c'était de voir bon comment, parce que moi j'ai assisté aussi à des tournages et je suis toujours étonné de voir le temps et le nombre de personnes qu'il faut pour des trucs très courts en fait.
Ah oui.
Entre le moment où on les filme, on les refilme, on les retravaille, etc. Et tout ce travail autour de préparation, etc. C'est très étonnant et je pense que pour des jeunes, savoir que derrière un petit film de quelques minutes, il y a des jours de travail en fait, hein, non
c'est... Tout à fait, tout à fait. On a tourné 2 jours et demi par film.
On continue, oui.
Ce qui est relativement court, hein. C'était déjà
tout ça pour cette condition. Minutes,
c'était une contrainte, oui.
Plus
oui,
après
oui.
Tout le montage et etc.
Alors le montage, moi, j'ai mis plusieurs mois pour monter les 4 films. J'ai mis à peu près 3. Oui, 3 semaines par film de montage à peu près.
Tout ça, je ramène toujours tout ça pour 7-8 minutes de projection.
Tout ça pour 7-8 minutes.
Donc voilà, donc on ne se rend pas compte du travail qui se cache derrière un film qu'on est en train de regarder. Tout ce travail de préparation, de mise en place, etc. Et c'est quelque chose que donc, ces jeunes ont appris avec votre humour. Il y avait un article qui était passé dans le Berry d'ailleurs, qui en parlait un petit peu de ça, que vous faisiez travailler ces jeunes-là.
Oui, tout à fait.
Et c'était en partenariat avec l'Éducation nationale. Vous avez eu des subventions, des sponsors, des partenaires.
Oui, oui, avec la DRAC.
Avec la DRAC.
Oui, avec la région, le département, oui.
D'accord.
Oui, oui.
C'est un projet que vous avez soutenu.
L'éducation nationale.
Vous avez fait un ressort ou il y a eu une sélection ?
Non, c'était un projet TREAC. C'est un dispositif du TREAC, du territoire.
D'accord.
Et de la région. Donc, il y a eu des financements pour ce genre de projet. Et la région Centre en a bénéficié. Et ces financements étaient donnés à une association de Bourges. Entrepôt, je ne sais pas si vous connaissez. Et c'est cette association-là qui s'occupait de...
D'accord, voilà. Par le biais d'une association.
Par le biais d'une association, oui.
D'accord.
Et du collège.
Et de votre côté, quel bilan vous faites de ce travail avec des jeunes comme ça qui apprennent, qui ne connaissent rien au métier au départ? C'est fastidieux, c'est intéressant. Qu'est-ce que vous en tirez
C'est très intéressant. C'est formateur même pour moi, ça l'a été en tout cas. Ça a été formateur pour eux et pour moi. Moi j'étais très étonnée par leur implication, la leur et celle des professeurs aussi. Parce que les professeurs, c'était une expérience nouvelle aussi pour eux. Et ils ont fait assumer le rôle de la régie,
Ils ont pris ça très au sérieux.
Très, en fait. très au sérieux. Moi,
vous avez
vraiment
une quinzaine d'années, c'était les troisièmes ou...
Non, c'était les quatrièmes.
Quatrièmes.
Oui. Ils avaient 14 ans. Les professeurs étaient extraordinaires, ça je tiens vraiment à le souligner. Et le sont encore parce que c'est elles vraiment qui s'occupent de toute la partie organisation.
Logistique.
Toute la partie logistique, ce sont
les
professeurs.
Et pour les costumes et tout ça, ce sont eux qui l'ont fait
aussi.
Les élèves.
Les élèves et les professeurs.
Et les professeurs.
Oui.
Donc en fait, en dehors des heures de tournage, il y avait des cours dispensés par les professeurs sur ces thèmes-là.
Oui, avant le tournage, les professeurs leur ont fait des cours de ils ont visionné beaucoup de films fantastiques.
Ah oui.
Ils ont appris un petit peu l'histoire du cinéma,
une étude de texte,
voilà.
D'accord.
Et après les costumes, ils ont réfléchi ensemble avec les professeurs. Quel costume fallait pour telle époque. Et puis ils ont été c'est eux qui ont tout choisi, cherché les costumes et ils ont tout était prêt pratiquement quand on est arrivé. Hein. Oui.
Oui, il y avait déjà toute une préparation.
Il y avait déjà toute une préparation, oui.
D'accord.
Oui.
Et donc, ce qu'on va voir ce mercredi 30 juin, donc c'est à partir de 18h, je crois,
oui,
au Ciné Lumière, on va voir le résultat de tout ce travail, d'ailleurs le travail de ces élèves, des professeurs qui ont coaché derrière, et puis ce que vous en avez fait en termes de mise en... Je sais pas comment on dit, pas de mise en page dans ces cas-là.
De montage, oui.
De montage.
Oui, en termes de montage et quelques effets spéciaux aussi.
Et outre les élèves, il y a d'autres acteurs adultes, je crois.
Non. Outre les élèves,
un vieux.
Et il y a une voix off, je crois.
C'est ça. La voix off, je ne l'ai pas utilisée parce que c'était pas nécessaire puisqu'il y avait la voix, il y avait la radio, il y avait un message radio qui diffusait le message qui était intéressant pour le film. Mais oui, effectivement, j'ai fait appel à. Il nous fallait un grand-père pour un des films. Il y avait une remontée dans le temps et
voilà. Alors ce qu'on peut préciser, hein, c'est quand même c'est qu'un de ces films va être vraiment très viarzonné puisque c'est Radio Tintouin qui va donner un bulletin d'information pendant le film. J'en dis pas plus hein, parce qu'il faudra écouter sur place, mais Radio Tintouin a donc participé à ce travail.
Tout hein. à fait. Donc Radio Tintouin est en quelque sorte partenaire aussi. Hein. J'ai mis le logo à la fin du film parce que Radio Tintouin a
voilà, donc avec il y aura deux Radio Tintouin qui va passer à l'écran.
Un grand-père et un reporter, quoi. Une voix.
Voilà. Et là, on va voir Radio Tintouin sur un écran. D'habitude, on l'entend. Et là, on va le voir.
C'est ça.
Voilà.
Et on va l'entendre et on va le voir.
Et on va l'entendre aussi.
Incroyable.
Parce que un de nos. Comment, ceux qui font les bulletins d'infos, justement, c'est collé au travail.
C'est David.
Et c'est lui là, qui va, David, donc, pour ne pas le nommer, hein, bien sûr.
Oui.
C'est David qui va donc parler, et vous l'entendrez dans le film. Alors ne ratez pas la projection, parce que c'est quand même pas tous les jours que Radio Tintouin passe au cinéma.
Absolument, c'est à marquer absolument sur nos agendas.
Et, voilà.
Tous les élèves vont venir, du coup, tous les élèves et leurs professeurs et leurs proviseurs sont invités.
Oui, oui, oui. Je pense qu'ils seront tous présents. Je crois que la salle comprend 370 places.
Une des salles, la grande salle du cinéma.
Voilà. Oui, oui. Et il me semble qu'elle est déjà presque complète à ce jour.
Donc, il va y avoir beaucoup de scolaires là, en train de regarder une partie de leur travail en fait,
tout hein, à
parce
fait.
Qu'ils ont travaillé dessus. Puis peut-être ils vont montrer aux copains parce que tout le monde n'a pas
participé. La projection est réservée du coup.
Elle est réservée, oui.
Aux élèves, à leurs parents peut-être, à leurs professeurs.
Oui, oui, oui. À l'équipe
de tournage,
à ceux qui ont participé, comme le grand-père et le monsieur de la radio. Et en priorité. Et puis après, on va l'ouvrir aux amis.
Et alors après, est-ce qu'il y aura une autre projection plus tard pendant le mois de juillet qui sera ouvert au public du cinéma, en avant-première peut-être d'un autre film
Je pense que c'est négociable. C'est négociable.
Donc c'est à mettre en place, pour l'instant c'est pas prévu.
Prévu encore.
D'accord, pour l'instant c'est juste une projection pour les scolaires en particulier qui avaient participé. Et puis bien évidemment il y aura peut-être quelques places pour Radio Tintouin pour qu'ils puissent aller voir ça.
Oui, il y aura des places pour Radio Tintouin.
Voilà,
avec grand plaisir. On a hâte. Hein. Si ça fait pas trop peur, j'y vais. Hein. Mais moi j'ai peur. Hein. Au cinéma.
Mais tu ne seras pas toute seule, il y aura 300 et quelques personnes dans la salle, ça rassure toujours un petit peu. Donc voilà. Écoute, je vous remercie, Paola. J'avais commencé avec le vouvoiement, on va finir par là.
Ensuite, on va parler de vos projets futurs après une.
Voilà, après, on va passer peut-être une petite coupure musicale et on va passer après à un autre aspect, c'est-à-dire tout ce travail que tu fais, et en particulier, on va parler d'un long métrage que tu as en cours en ce moment aussi, et puis d'autres. Film plus militant, on pourrait dire, auquel j'ai pu assister l'autre jour à Saint-Georges-sur-l'Après en particulier. Donc on va parler un peu de tout ce travail-là. Après une coupure musicale, est-ce que Marc se sent la capacité de nous envoyer la musique ?
Une petite musique fantastique. Yeah.
Radio Tintouin, c'est la radio de Vierzon et de ses environs.
Donc toujours avec nous sur Radio Tintouin, Paola Cristina Carmo Dal Silva, réalisatrice, donc qui va nous parler un peu de son métier. Parce que bon, d'abord, pourquoi est-ce que tu t'es installée à Vierzon? Qu'est-ce qui t'a amené à rester là? Parce qu'il y en a qui s'en vont. Et toi, tu fais partie de ceux qui restent et qui continuent à faire quelque chose à Vierzon. Et donc, c'est à relever. On aime bien relever ces choses-là sur Radio Tintouin parce qu'on pense que c'est une ville vivante qui ne sait pas trop le faire remarquer. Donc là, c'est un moyen de le faire en parlant un peu de ton travail. Donc, explique-nous pourquoi Vierzon déjà?
Eh bien, moi, j'aime Vierzon, en fait. J'aime beaucoup cette ville. Moi, j'y suis très bien. C'est calme. Je travaille beaucoup sur Paris aussi, mais j'adore rentrer chez moi au calme. Alors, mais moi, quand je suis arrivée à Vierzon, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'était pour travailler à l'hôpital. J'ai travaillé au CMP pendant beaucoup d'années, et avant ma reconversion, donc. Et c'est donc mon ancien métier qui m'a emmenée à Vierzon. Puis un jour, j'ai fait un virage à 180 degrés et je suis restée quand même parce que je pense que la culture et le cinéma à Vierzon doivent exister et existent d'ailleurs et fonctionnent, marchent très bien. Et moi c'est ici, je trouve que la région parisienne, Paris, ça peut attirer beaucoup de monde, mais je trouve que tout est un peu bouché. C'est plus intéressant pour moi d'être affiliée à une réalisatrice de la région Centre-Val-de-Loire. J'ai plus de fierté parce que il y en a pas beaucoup et on est plus visible, je trouve, qu'en région parisienne. Il y en a tellement que du coup ils se noient dans la quantité de réalisateurs qu'il y a.
Alors nous,
il faut vraiment sortir du lot.
Et le sujet, vous avez fait des sujets sur la ville, sur la région, des documentaires?
Oui. Alors j'ai fait un documentaire musical, on va dire, sur la ville l'inauguration de la plage Jacques Brel.
Oh, super.
Et il n'a pas encore été vu. Je voulais le proposer à la mairie ou à l'office de tourisme. Alors je ne sais pas trop si.
C'est une des bonne contacts idée à aussi, prendre, voilà. Peut-être.
Mmh. Oui.
Bah oui, oui. Mais l'appel est lancé, en tout cas, si l'office de tourisme ou le maire de Vierzon nous écoute.
Oui, oui, oui. Je pense que c'est un petit documentaire qui peut lui plaire. Et sinon, j'en ai fait un pendant le confinement. Le premier confinement. Je suis sortie avec ma caméra et pendant 30 jours, tous les jours, je filmais ce qui se passait dans les rues.
Il ne se passait pas grand-chose dans les rues pendant le confinement.
Si.
Ah bon?
J'ai trompé vous, Jean-Luc. On se tutoie aujourd'hui. On se vous voit aujourd'hui.
Il n'y avait pas grand monde, en tout cas.
Eh bien, alors il y avait moins de monde que d'habitude. Mais c'était très intéressant, ce que j'ai filmé. Parce qu'il y avait, finalement, les gens que je croisais avec ma caméra, c'est des gens qui avaient besoin d'un soutien, besoin de parler. Et il s'est passé des choses formidable entre eux et moi, et finalement j'ai suivi ces personnages pendant 30 jours.
Ah oui, ce sont les mêmes personnages?
Ce sont les mêmes. Alors,
l'évolution
j'ai fait aussi
de leur vision des choses, leurs états d'âme.
Oui, oui, oui. C'est un film que j'ai proposé à la maison de production avec laquelle je travaille. Ils sont très intéressés, donc pour l'instant... Voilà,
c'est un pourparler.
Oui, alors je pense qu'ils sont dans quelques. Là, je suis en train de monter un cours, enfin de préparer un long métrage, et donc on n'a pas vraiment le temps de s'occuper de celui-là. Mais ils m'ont dit surtout de le regarder, de pas le proposer pour l'instant à quelqu'un d'autre parce qu'ils sont très intéressés par celui-là aussi.
Super. Alors j'ai l'impression, enfin de ce que tu viens de dire, que tu as fait un mix entre ton travail d'infirmière en psy et puis ce film dans lequel il y avait une dimension thérapeutique, si je comprends bien. Là.
Ah oui, bah c'est intéressant ça. effectivement, c'est ça. Alors moi, ce travail m'a énormément apporté sur le plan humain et m'a aussi donné une lecture, je pense, différente de l'autre, de l'humain. Et c'est pour ça que moi, j'utilise ma caméra comme une continuité, pas comme une continuité du soin, mais comme une continuité de du chemin, en tout cas que je, du pas que je fais vers l'autre. J'adore raconter des histoires de vie. Je m'intéresse beaucoup aux personnes que j'ai devant moi. Quand je filme quelqu'un, déjà il faut que j'aime les personnages que je filme. C'est toujours avec beaucoup de respect, avec beaucoup de voilà,
bienveillance,
avec beaucoup de bienveillance. Donc même si mes personnages sont en souffrance ou semblent l'être, c'est toujours dans l'accompagnement en fait. Je les accompagne. Je les quelque part, c'est comme si la réalisatrice que j'étais les prenait par la main, mais pour les accompagner vers quelque chose. C'est le documentaire, hein, c'est du documentaire. Moi, j'aime bien partir d'un point A, arriver à un point B avec mes personnages. Donc, il faut qu'il y ait un sens. Je ne filme pas juste pour filmer ou pour m'introduire, m'immiscer dans une vie. Je filme quand je filme, en fait, je veux mettre en avant. Je veux, en tout cas, relever, dégager le sens de ce que je suis en train de filmer, d'une souffrance ou d'une...
D'un vécu.
À la fin, il y a toujours un. J'ai le terme qui m'échappe.
En fait, c'est
une réflexion.
Bien sûr, c'est ça.
Une conclusion. Oui. Un projet d'avenir.
En fait, t'as un petit cheminement.
Ouais. Oui.
Un petit cheminement à deux, là, que tu fais quand tu fais ça. Tu chemines avec quelqu'un.
Je chemine avec quelqu'un.
Et t'es en train
toujours.
De découvrir peut-être ce que tu ne savais pas de ce qu'il est en train de vivre. C'est un
exactement.
Moment de découverte,
exactement. Tout à fait. Aussi, hein. Tout à fait.
Et ça, ouais. Ça apprend aussi sur vous pour d'autres projets.
Oui. Déjà, parce que, effectivement, on apprend toujours de l'autre. Hein. On ne sait jamais tout.
En effet.
Oui. On apprend toujours quelque chose. Je ne sous-estime jamais quelqu'un, donc j'ai toujours à apprendre des sujets que je filme. Et c'est vraiment un film qu'on fait à deux. Quand je filme un sujet en documentaire, le film, on le fait ensemble. C'est pas moi qui fais un film sur eux, c'est s'ils me disent non, il n'y a pas de film.
Oui, ça laisse la place à un peu de... C'est pas dirigiste, quoi. Ça laisse la place à un peu de l'inopiné, du... Voilà, du... C'est pas réfléchi, c'est sur le vif, quoi, un peu.
Oui, tout à fait. Bah, parce que ce qui est important en documentaire, c'est que les personnages, il faut qu'ils soient eux-mêmes. Il faut qu'ils jouent leur propre rôle. Enfin, ils jouent pas, d'ailleurs. Il faut qu'ils soient juste eux, naturels. Sinon, ça dénature. C'est plus... Si on dirige, c'est plus du documentaire. On peut toujours, évidemment, il y a toujours une mise en scène, mais il ne faut pas qu'elle soit visible en tout cas.
Mais il faut savoir les mettre à l'aise et puis
oui, voilà,
se livrer à la
fait.
Caméra.
Oui.
Et votre long métrage, alors le sujet, c'est autre chose, je suppose.
Complètement autre chose. Ça, c'est un film plutôt assez personnel. Enfin, intime, on va dire.
Autobiographique ?
Non, pas du tout. Alors, pas, en tout cas, pas mon autobiographie à moi, mais... Au fait, ça parle de... C'est l'histoire de ma mère. Mais c'est... Je peux vous donner... Enfin, le titre, est-ce que je spoilie si je donne le titre? Mais non, je pense que non. Je peux vous le donner.
Allez-y.
Allez, on est impatients.
Le titre, ça, c'est L'Angola, ma mère et moi. Donc, je travaille pour ce film avec une réalisatrice, en tout cas une société de production parisienne, et une société de production d'Orléans.
D'accord.
Et actuellement, on a une société de production portugaise qui nous a rejoint. Donc, d'accord. C'est vraiment un film qui
plus
est...
Plus le Portugal.
Pardon ? Plus le Portugal,
plus
oui.
Plus le Portugal.
Oui. C'est un film qui sera dessiné au cinéma, et qui est vraiment international. Quoi.
Et de quelle durée ?
C'est un... Je pense qu'il fera entre 80 et 90 minutes, oui. Donc le titre, déjà, il résume un peu l'histoire. C'est L'Angola, ma mère et moi.
Donc là, on apprend un peu plus sur ton nom. Parce que là, je me disais, bon, tout ça, ça vient du Portugal. Mais pas vraiment,
pas
en
vraiment,
fait.
Ça vient d'Angola.
Ça vient d'Angola, hein, une ancienne
et
colonie portugaise.
Et le film se passe ici ou là-bas ?
Il se passe ici, à Vierzon, et là-bas.
Et là-bas.
Oui. C'est toujours... Alors, bon, le film, il va raconter l'exil dans les deux sens. Donc l'exil de... Là-bas, à ici, vers ici, et d'ici, vers là-bas. Parce que...
Un retour au pays.
Un retour au pays, mais quand on retourne au pays après 40 ans, ce qui est le cas de ma mère, est-ce qu'on est vraiment encore au pays? Est-ce que c'est encore chez nous?
On peut se sentir plus français que...
Complètement. Ouais. Alors le film, il va répondre, et c'est tenter en tout cas d'apporter des...
Et c'est votre maman qui tient le rôle? Éclairages. C'est votre maman qui tient le rôle ou c'est une actrice qui tient le rôle?
Non, c'est ma mère.
C'est votre maman elle-même?
Oui, c'est ma mère qui tient le rôle.
Elle va tenir son propre rôle dans le film.
Elle va tenir son propre rôle.
Ce n'est pas toujours facile.
Et c'est une, c'est un personnage... ma mère, c'est un personnage déjà.
Ou en couleur?
Ou en couleur, c'est une femme qui est infirmière avant, qui est écrivaine aussi. Elle a écrit énormément de livres, plus de 25 à peu près,
ah oui,
traduits en plusieurs langues.
Des romans?
Des romans, des essais sociologiques, des livres géopolitiques. C'est une femme vraiment qui a une instruction, une culture très forte, qui a beaucoup de réparties. Et qui a fait aussi une maîtrise de philosophie. Donc, quand elle parle, il y a toujours une pensée philosophique derrière. Et c'est très intéressant pour le film d'avoir un personnage comme ça. Et en plus, c'est ma mère. Donc, une fille qui filme sa mère, c'est pas très facile.
Ah, c'est très compliqué.
Voilà. Donc, j'essaye, en tout cas, malgré le fait que je sois sa fille, d'être surtout la réalisatrice, de rester la réalisatrice du film.
Parce prendre que, un recul en même temps.
Prendre du recul. Et, oui.
Il y a d'autres personnages dans le film?
Oui, il y en aura beaucoup d'autres, oui.
Pensez qu'il va sortir quand, ce film?
J'espère en 2023.
Ah oui, c'est bientôt, je veux dire, que ça représente un gros travail de mise en...
Vous avez écrit le scénario, là, simplement.
Oui, j'ai écrit le scénario et j'ai eu la chance d'obtenir, de décrocher trois aides à l'écriture, ouais, de la région Centre, de la région Île-de-France et de la SCAM.
Oui, vous avez proposé votre scénario qui a été retenu.
Oui.
D'accord, alors ça c'est une partie, on a parlé du long métrage, il y a aussi des courts métrages un peu militants, hein, j'en ai vu l'autre jour à Saint-Georges-sur-l'Après, est-ce que tu peux nous en parler un peu de ces courts métrages, dans quel but ils sont faits, qu'est-ce que tu cherches à faire passer à travers tout ça?
C'est effectivement les courts métrages qui ont été diffusés à la montagne, aborder le thème des féminicides parce que je suis une femme et que c'est un sujet qui me touche énormément,
qui est d'actualité en plus,
qui est d'actualité,
hélas tristement d'actualité,
tout à fait. Je pense que oui, alors on en parle beaucoup aujourd'hui, mais ça a toujours été, hein, je pense que ça a toujours,
c'est pas toujours,
je
existé, pense
pas
hélas.
Que ce, voilà, je pense pas que ce soit pire qu'avant, vraiment, sauf qu'on en parle plus. Pendant le confinement, c'est vrai qu'il y a eu une telle ampleur de cette catastrophe qu'on ne pouvait pas faire autrement que de le médiatiser, parce que c'était tous les deux jours, on sait que tous les deux jours, une femme est assassinée.
Elle est tombée sous les coups de son conjoint, de son ex-conjoint.
Oui, tout à fait. Et dans le monde, alors là, le bilan, il n'est pas plus... florissant, c'est catastrophique. Hein,
et là, dans ces films, tu penses faire bouger les lignes, faire réfléchir, c'est quel est le but? À part d'en parler, parce que là, on en parle, c'est vrai, beaucoup plus qu'on en a parlé à une autre époque.
Mais il faut que ça soit médiatisé, parce qu'il faut que chacun prenne conscience de cette violence larvée qu'il y a dans les foyers. On n'est pas toujours au courant. Il faut aussi penser aux conséquences collatérales sur des enfants, ceux qui sont traumatisés pendant toute leur vie, qui sont des victimes collatérales et pour lesquelles il faudrait aussi faire un sujet, je pense, qu'on n'en parle pas assez des
tout
enfants.
À fait, tout à fait. C'est vrai que les enfants, ils sont exposés, ils sont complètement détruits. Hein. C'est vrai que je pense, pourquoi pas faire un prochain film là-dessus, mais j'espère réfléchir en tout cas, faire bouger les lignes. Quand on fait un documentaire, je pense qu'on espère toujours faire bouger...
une prise de conscience collective.
Tout à fait, en tout cas quand c'est...
C'était dans le cadre d'un festival hein, pour Saint-Georges-sur-l'Après.
Alors là, c'était à la montagne, je ne sais pas dans quel cadre ils l'ont fait. Hein. Il y avait trois courts-métrages hein, de Paola qui étaient mis en musique par des musiciens sur place, musiciens de jazz qui ont improvisé en voyant les images pour la première fois. Ils n'avaient même pas vu le film.
Ah, d'accord.
Et c'était très
ils
intéressant.
Ils ont posé de la musique sur les images in vivo. Quoi.
Et en même temps, c'est comment je dirais, quelque chose de totalement éphémère puisque personne n'a enregistré, donc on ne sait même pas aujourd'hui quelle est la musique qu'ils ont fait. Eux-mêmes ne savent pas, ils ont joué en impro, donc au saxo, contrebasse.
Contrebasse et saxo.
C'était quel groupe ?
Ah non, mais c'était quelque chose d'incroyable.
Enfin,
moi, je l'ai vu. Et après coup, je me disais, c'est dommage que ça n'ait pas été enregistré. Puis après, je me disais, il y a le côté vrai de la chose, c'est que ça ne sera pas reproductible. Ce n'était qu'un instant à vivre.
Instant.
Et ça a quelque chose qui était formidable de ce côté-là.
Ils ont posé de la musique sur vos images.
Oui, parce qu'en fait, le projet, c'était... Ils voulaient faire un ciné-concert. C'est souvent ce qu'ils font, d'ailleurs, à la montagne. Et ils m'ont demandé, comme ils avaient un financement de Human Tech Days, il m'avait demandé trois courts-métrages sur lesquels il pouvait faire donc ce concert. Et j'ai réalisé trois courts-métrages muets, en fait, qui n'ont pas besoin de musique pour exister. Voilà, on voit juste des faits, des images, choc, beaucoup de métaphores, il y avait des textes aussi, des lettres, des poèmes, des phrases, des citations... De femmes donc ils ont c'est Eric Jacquot un saxophoniste de talent vraiment de renom en plus il est assez connu qui a et Thierry tous les deux ils ont joué
non mais en fait régulièrement déjà Radio Tintouin avait
très intéressant
Radio Tintouin avait déjà enregistré un concert où il avait fait venir deux copains de je sais plus où d'un peu partout en France
c'est de l'impro
c'est du jazz dans la pureté du truc c'était vraiment improvisé à partir d'une grille ils savent si bien le faire et là c'était encore pire je dirais pire, encore plus ardu, parce que là, il n'y avait rien, sinon le fait qu'ils se connaissent, et qu'il fallait qu'ils arrivent à se mettre ensemble dans ce film qu'ils voyaient, exprimer quelque chose musicalement là-dedans. C'était très très fort. Dommage, il n'y avait pas beaucoup de spectateurs, mais c'est quelque chose à reproduire là encore. Ça serait une bonne chose à faire, ça.
C'était très fort. C'est vrai qu'en faisant ce film, je me suis pas rendu compte de l'impact qu'il allait avoir sur le spectateur. J'ai mis beaucoup de, il y a beaucoup de métaphores, beaucoup de vers brisés, c'est qui symbolise vraiment ces vies brisées, la violence. Et à la fin, je sais que il y a beaucoup d'hommes qui étaient dans la salle qui se sont sentis un peu mal. Mais bon,
Non, mais parfois il faut des images choc pour faire.
Alors ce qu'on pourrait dire, parce que bon, moi j'ai beaucoup aimé son travail, c'est que justement il n'y a pas tant d'images choc que ça. Elles sont plus suggérées que montrées. Et justement dans cette suggestion, il y a quelque chose qui fait que les spectateurs deviennent participants. Ils fabriquent eux-mêmes scénario à partir des quelques images qui sont mises et ils s'impliquent en fait. Et je crois que c'est ce qui a fait qu'à la fin beaucoup de gens étaient un peu travaillés intérieurement parce qu'ils n'étaient pas simplement dans un film où ils sont assis pour le regarder, ils ont participé d'une certaine façon au scénario qui était en train de se faire.
Ouais.
Et c'est quelque chose, je ne sais même pas si Paola s'en était rendu compte sur le coup, mais ça a eu un impact beaucoup plus grand qu'un film où on aurait montré davantage, si on veut, qui aurait peut-être été plus exhibitionniste et ce n'était pas le but recherché.
Non, pas du tout, oui, effectivement. Déjà, c'est vrai que c'est montré. Montrer cette violence, je pense qu'on sait déjà quand on en parle, c'est déjà assez violent. Quand on raconte les histoires, quand on les entend, alors en plus montrer, c'est pour moi c'était insupportable. Donc il fallait que je trouve un dispositif pour la montrer Autrement, en fait, pour que vraiment le spectateur puisse la comprendre sans avoir des images très, très brutales devant les yeux. Et je pense que c'est ce qui s'est
passé. Oui, comme dit Jean-Luc, c'était suggéré. Ouais.
Ah, oui. C'était, mais moi, j'ai trouvé que le processus, même si tu l'as fait de façon un peu inconsciente, a fait participer les gens. Bah, il y a le contrebassiste, il en était en larmes à la fin. Quoi. Oui. Je veux dire, c'était très étonnant de le voir, hein, de ne pas finir ses phrases parce que l'émotion était trop forte. Et je me suis dit, mais bon, en plus, lui, il a joué, c'est-à-dire qu'il a exprimé tout ce qu'il voyait en même temps.
Avec son
il était encore plus acteur que les autres, mais même moi qui étais juste assis tranquillement à ma place, en fait j'étais pas assis tranquillement, je fabriquais ce qui manquait entre guillemets ce qui manquait dans le film, c'est-à-dire tous ces les processus en place qui font que la violence est là, qu'il y a des conceptions de la propriété qui est très très mal placée puisqu'elle est sur des personnes, etc. Et tout ça c'était tellement suggéré que ça obligeait les gens à participer au film pour le comprendre, et je pense que c'est un processus à travailler parce que c'est vraiment très très
Tu
as mis beaucoup de pudeur. Et en fait, c'était même peut-être plus fort que si on avait présenté des images choc, auxquelles aujourd'hui, malheureusement, tout le monde est un peu habitué. Et on se blinde à l'image, alors que là, il y avait quelque chose c'est simplement
triste.
Suggéré.
C'est triste de s'habituer à ça, très triste.
Oui, c'est vrai. Et d'ailleurs, je trouve que c'est marrant parce que les gens, quand ils me parlent, ceux qui l'ont vu, le film, quand ils m'en parlent, c'est toujours très juste. Je trouve qu'ils ont vraiment... chacun s'est approprié un peu de cette histoire, mais tous les retours sont très justes. C'est toujours très, très, très fort, en fait, ce que vous me dites sur le film. Toi, tu l'as vu, Jean-Luc. L'autre jour, quelqu'un m'a appelé pour m'en parler et j'ai trouvé que c'était vraiment très... Et effectivement, moi, en le faisant, je n'ai pas réalisé cet impact-là. Je n'ai pas réalisé que le film était si... On va dire en tout cas que vous l'auriez vécu de façon très subtile, qui vous le trouviez pudique et subtil. Je pensais, moi, que c'était justement un peu choquant, les images étaient un peu dures, mais au fait, je me suis rendu compte que pas du tout.
Non, c'est vrai, bon, ben, je pense que c'est. Il y a cette pudeur aussi de ne pas vouloir imposer. Ton regard, même si tu as un ressenti et que tu le mets dans ton film, ce qui fait que chacun y participe à sa manière. C'est pas une idée imposée, donc il la prend pour lui. Et je pense que pour beaucoup de gens, pour avoir parlé après avec des gens, je voyais vraiment cette dimension-là, où quand on n'impose pas une idée, on a beaucoup plus de chances de la laisser cheminer dans une personne.
Tout à fait, tout à fait.
Donc voilà, alors ça, bon, ça c'est ces trois courts-métrages là de la montagne à Saint-Georges-sur-l'Après. T'as d'autres projets en cours?
Mais ils
en
étaient
ce moment
très différents, ces courts-métrages-là, parce que il était en trois parties, c'était un triptyque. Donc le premier, c'est ce que tu viens de décrire. Le deuxième, c'était uniquement des messages. Et le troisième, c'était la danse. C'était des jeunes, des enfants qui dansaient, au fait. C'était juste pour finir sur une touche un peu plus poétique, un peu plus légère, oui.
Et en même temps sur le relationnel de couple, puisque la danse, c'est ça.
Oui, hein, c'était le tango, c'était... oui.
Nous, on exprime par la danse des souffrances, des joies, etc.
Oui, oui.
Et pour suivre votre actualité, vous avez un site Facebook,
un endroit où on peut te retrouver sur le net.
Oui, j'ai un site Facebook. J'ai un site Facebook. Pour l'instant, je n'ai pas encore partagé les films sur aucun site ni sur YouTube.
Votre actualité.
Mais oui, mon
projet.
Actualité, oui, c'est sur mon Facebook. C'est Christina Carmo da Silva. Mon Facebook, il n'y a pas de souci pour voilà. Et souvent, je le dis quand je fais une projection quelque part.
Les événements. Voilà, oui. On peut suivre votre activité sur le Facebook.
Oui, tout à fait.
Une façon de te suivre. Donc, pour l'instant, tu restes à Vierzon?
Je pense que je risque de rester longtemps, puisque je...
Non, j'aime bien... bon, on invite ici un peu des tas de gens de Vierzon. Et là, il n'y a pas très longtemps, on a invité donc des gens qui faisaient aussi un court-métrage, hein, qui se sont installés à Vierzon.
Oui,
on s'est pas encore rencontrés, des gens qui ont fait un court-métrage à Vierzon, qui sont montés leur maison de production à Vierzon.
Et aussi. Pareil, avec le même plaisir d'être dans cette petite ville.
peu similaire parce que le jeune homme, il a fait un film sur sa mère algérienne et le retour à son village, etc.
Ah, oui, oui.
Ça reprend une même thématique. Et ils ont reconstitué à Vierzon, à la maison Madeleine Sologne.
Salle municipale.
À la salle municipale Madeleine Sologne, pardon, excusez-moi. Là, carrément, la maison telle qu'elle était au village avec du torchis et tout, parce que confinement oblige, ils n'ont pas pu tourner en Algérie. Donc, ils ont tout reconstitué et c'était incroyable de vérité et de. Oui, c'était chouette, hein, franchement.
Ah, tu y es passé, là, tu as vu.
Oui, ouais, je suis passée et c'était vraiment... Ils avaient bien reconstitué la maison en torchis, le décor, etc. Et franchement, c'était un court-métrage aussi.
Ah ben, il y avait 25 personnes bénévoles
25
qui étaient
personnes
là.
Bénévoles,
ils ont fait
ouais.
ce film... bon, c'était avant leur société de production était à Orange.
D'accord.
Ils ont décidé de prendre Vierzon pour plein de raisons. Et ils se sont rendus compte qu'ils avaient fait un très bon choix. L'accueil a été très bien. La mairie leur a proposé...
La mairie leur a mis à disposition la salle Madeleine Sologne.
Etc.
Ouais.
Et donc, en fait, ils ont réalisé des choses qu'ils n'auraient pas pu faire sur Paris.
Pareil,
parce qu'ils auraient été dans le grand anonymat de tous ceux qui produisent sur Paris.
D'accord.
Alors que là, c'était différent. Mais il y avait cette découverte de cette ville qui leur plaisait. D'ailleurs, en plus, la première fois qu'ils ouvrent leur transistor et qu'ils cherchent une radio, ils tombent sur Radio Tintouin.
Bien sûr, bien sûr.
Quand on est arrivé là-bas.
Vierzon, c'est une ville qui se veut ouverte à la culture, aux arts, à toutes les expressions écrites ou orales. Hein. Oui. On tend à Vierzon à vouloir développer cet aspect-là.
Et puis il y a encore quelqu'un là qui est dans la rue piétonne qui lui aussi a un projet de... Tu connais un peu là sûrement Dorian.
Dorian, oui, je le connais bien sûr.
Voilà,
oui.
Mais, donc voilà, on a quand même trois.
Il y a aussi trois
réalisateurs à Vierzon.
Oui, mais il y a aussi Color Inside Film qui est une production.
Et puis il y a aussi Xavier Gasselin qu'on a reçu aussi qui fait des films hein, et son épouse qui a fait un film sur Vierzon, L'Invisible de Vierzon, un long métrage sur Vierzon qu'on a invité également sur nos ondes.
Ben ça, par contre, je l'ai pas vu. Il faudra que je le voie ce film.
Ah oui, je peux passer les DVD, je vous passerai les DVD, sur tous les aspects inconnus de Vierzon, c'est un très très joli film qui elle est installée sur Vierzon, avec sa société de production.
Comment il s'appelle? Je crois voir.
C'est la maison d'édition, alors le nom m'échappe, c'est Xavier pas... Gasselin,
oui, lui, je crois,
et
je
puis
crois.
Elle, c'est Coraline.
Oui, je vois qui c'est. Enfin, je vois de nom,
Donc voilà, on va avoir une pépinière de cinéastes à Vierzon qui démarre. C'est très bien. Ça fait de Vierzon non seulement une ville ouvrière, ce que l'a été pendant des
audiovisuel,
dizaines,
voilà,
des
ça j'ai trouvé. C'est éléments audiovisuels.
Éléments audiovisuels, c'est ça.
Voilà.
Et là, on va avoir une pépinière de nouvelles productions de toutes sortes. Donc, Paola, on te reverra sûrement un moment où ton long métrage passera. On essaiera de
vous
faire...
êtes la bienvenue, en tout cas, sur nos ondes.
Merci beaucoup. Merci
voilà, et puis merci en plus, si tu as des idées d'émission, pas de souci, tu sais où aller. on t'accueillera avec joie.
Avec grand plaisir.
Voilà, écoute, il nous reste
merci
plus
beaucoup
qu'à demander
merci de votre
à Marc
accueil.
Sa petite musique de...
Le jingle. Radio Tintouin.
Radio Tintouin, d'abord un petit jingle pour finir, oui.
Vous écoutez Radio Tintouin, la radio de Vierzon et de ses environs.
Pastaga. Oh là là, oh là là,
on a
girl. Got her with the master, yeah. Serre-moi de l'amour dans un verre de pastèque. On a fait le tour de vers l'année de Kafka. Serre-moi de l'amour dans un verre de pastèque. On a fait le tour de vers l'année de Kafka. Les gens font pour oublier. Oh là là. Viens en sac ou deux étoiles.